Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis. Je suis Anne Boyer, journaliste de la rédaction d'Eurosport. Et pour parler de l'actualité de tennis aujourd'hui, nous sommes bien sûr en compagnie d'Arnaud Di Pasquale. Salut Arnaud.
Salut Anne.
Et il a longtemps été notre rookie à nous, mais aujourd'hui son expérience dans Deep Impact parle pour lui. Maxime Battistella est avec nous également aujourd'hui. Salut Maxime.
Salut Anne, salut Arnaud. Quelle introduction. Qu'est-ce que je peux dire de plus?
Magnifique. Salut Max.
Eh bien, nous sommes tous les trois qualifiés en deuxième semaine de Wimbledon et l'on va en parler. On va faire un petit bilan de la première semaine sur le gazon londonien. Et on va d'abord parler des choses qui fâchent dans ce podcast et qui ont fait jaser depuis le début de la quinzaine, les couacs de l'organisation entre la pluie, la gestion des toits, la programmation un petit peu tardive. Wimbledon doit-il revoir sa copie? Ce sera notre question qui fâche. Certains favoris sont tombés, certains sont au rendez-vous et d'autres ont déjà créé la surprise. Qui a le plus impressionné jusqu'ici avant les quarts de finale? Nos protagonistes du jour nous donneront leur avis. Sans oublier la stat de Constance, notre partenaire de jeu 7 et mat, et l'œil de Deep pour compléter le programme. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast. Abonnez-vous, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et vous retrouverez également sur eurosport.fr des extraits vidéo de cette émission. Les joueurs sont prêts, Deep Impact, c'est parti. Et l'on va démarrer, messieurs, avec la question qui fâche. La gestion des matchs, au-delà de la simple question de la pluie, par les organisateurs du tournoi londonien. Wimbledon a été critiqué sur sa gestion des toits, hein, du center court et du court numéro 1. Mais l'organisation a aussi fait grincer des dents sur l'heure de début de jeu, sur le central en particulier. Dimanche soir, le programme a été bouleversé une nouvelle fois. Hein. Ce n'était pas la première fois sur le court central, puisque Novak Djokovic n'a pas pu terminer son match face à Hubert Hurkacz. Ça s'est joué sur deux jours, parce que le match avait démarré trop tardivement pour permettre une issue en 3-7 le même jour. Et puis, avec cette tradition du couvre-feu, surtout à 23h, qui impose une fin de journée un peu prématurée, eh bien, ça donne quelques critiques. Pour la pluie, évidemment, ce n'est pas du fait de l'organisation. Et puis, ils ont l'habitude de jongler un petit peu. Mais on a le sentiment qu'il y a eu plusieurs décisions un petit peu douteuses de la part des organisateurs. Qu'en pensez-vous, messieurs? Je sais, Maxime, que tu t'es un peu penché sur la question. Pour toi, est-ce que cette année, c'est particulièrement raté à ce niveau-là de la part des organisateurs du tournoi londonien?
Je trouve, oui. Pourquoi je me suis posé la question? Parce que les deux, trois premiers jours, bon, c'était la pluie, beaucoup de pluie, et donc il fallait parler de quelque chose, évidemment. Et ce qui m'a frappé tout de suite, c'est la gestion des toits, parce qu'en fait, la pluie, comme tu l'as très bien dit, Anne, bon, c'est indépendant de la volonté des organisateurs, on fait ce qu'on peut. Si on perd une journée parce qu'il pleut sans discontinuer, on peut pas faire grand-chose. Donc ça, c'est pas à mettre à leur débit. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que Wimbledon, c'est quand même la tradition, la pluie. C'est un tournoi qui n'a fait que jongler avec la pluie depuis son existence, j'ai envie de dire, depuis sa création il y a plus d'un siècle, le plus vieux tournoi du monde. Donc ils sont assez spécialistes à ce niveau-là de savoir comment rattraper le programme, comment faire pour que le tournoi se tienne bien en deux semaines. Je rappelle que Wimbledon avait, avant l'édition 2022, un dimanche chômé.
Oui, même avec le dimanche chômé,
ils y arrivaient. Exactement, même avec le dimanche chômé, ils y arrivaient. Ce qui m'a frappé, c'est la gestion des toits. Alors, c'est très bien d'avoir des toits, on sait pourquoi c'est fait. C'est d'abord, évidemment, pour les spectateurs qui viennent, ceux qui ont des billets pour le center court et le court numéro 1. C'est bien d'assister à du tennis, même quand il pleut. Donc ça, c'est évidemment pour les spectateurs. C'est aussi pour les téléspectateurs et pour les diffuseurs, pour proposer toujours du tennis, même quand la pluie gâche les hostilités, les festivités. Et bon, ça, ce sont des raisons, on peut les discuter, on peut parler d'équité par rapport aux joueurs qui ne vont pas jouer sous les toits. C'est une chose. Mais c'est communément immanent au niveau des grands chelems. Ça mis à part, on a vu que dès le premier jour, il y a eu un problème. Première interruption par la pluie, premier match de Djokovic, premier tour. Et bon, on déploie le toit sur le center court et on ne peut pas jouer. Pourquoi on ne peut pas jouer? Parce que c'est trop humide, le gazon est impraticable, trop glissant. Et donc Djokovic se met à se marrer, lui à même à prendre des serviettes lui, pour essayer d'aider ceux qui le font, les ramasseurs de balles, tout ça. Et finalement, on en arrive à la situation ubuesque de reprendre le jeu quand il ne pleut plus et en rouvrant le toit. Donc pendant 1 heure et demie, on a patienté, alors que le toit était déployé. Et on n'y arrive pas. Bon, premier couac, couac technique, ça arrive. Peut-être que ils n'ont pas
Qu'est-ce
assez
qu'ils ont,
rapidement.
ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas déployé les
Y
bâches, le
voilà,
toit a été fermé trop tard.
y a deux possibilités. C'est les bâches pas suffisamment, oui, rapidement déployées, en effet. Ou alors un problème de ventilation. Vous savez qu'il y a quand on ferme le toit, ils mettent la ventilation et pour justement sécher un peu et rendre l'atmosphère moins humide, parce qu'avec le toit, de toute façon, elle est un peu plus humide. Et là, ça n'a pas fonctionné. Bon, ça, c'est le premier couac. Deuxième couac, et à mon avis, le plus problématique, c'est le mercredi. Le mercredi, début de journée, il pleut. Sur le court numéro 1, le toit est déployé dès le départ, parce qu'il le savait. Il savait que la pluie arrivait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Début du programme, normalement, premier match de Medvedev. Heure locale 13h, en France 14h, le début des matchs. Sauf que l'organisation, disant que c'est un tournoi outdoor, ce qu'on peut comprendre, dit ouais, mais on pense que cette averse, elle ne va pas durer longtemps, donc on attend une demi-heure que l'averse passe, et puis on va rouvrir le toit et on va faire commencer les joueurs à 13h30, 13h45. Ce qui s'est passé, sauf que évidemment, une demi-heure plus tard, il a replu. Et ils ont dû redéployer le toit et ils ont dû encore faire patienter 15-20 minutes les gens et tout ça. Et donc le programme a été encore plus décalé, au moins d'une heure, 1 heure et demie, alors que s'ils avaient laissé le toit dès le départ, le programme aurait pu se tenir plus facilement. Tout ça pour dire que c'est bien d'avoir des toits, c'est mieux de savoir les utiliser. Et là, pour le coup, Wimbledon a fait un peu n'importe quoi.
En fait, ils
D'autant
veulent
que
pas les utiliser.
c'est ça.
Effectivement,
Alors,
c'est un tournoi outdoor,
c'est un
mais
tournoi outdoor,
comme l'Open d'Australie, comme l'US Open, comme Roland
exactement.
Garros.
Mais c'est un bon argument au départ de dire ouais, c'est mieux de jouer à outdoor, mais quand les conditions ne le permettent pas et quand tu as des toits pour faire qu'il y ait du jeu quand même, bah il faut les utiliser. Et donc là, c'est un peu c'est ubuesque. En plus, quand on sait qu'il y a 3 matchs seulement sur les grands courts, ça en devient très problématique parce qu'on arrive à des situations d'inéquité qui sont encore plus comment dire, creusées entre les joueurs. Si tu fais jouer 5 matchs sur un court et 5 matchs sur l'autre, sachant qu'il va pleuvoir toute la journée, au moins tu fais que le programme du lendemain il soit plus facilement respectable. Il y avait 87 matchs le lendemain à jouer. C'est insupportable, quoi. Et
Bah, il
après,
se
ils mettent.
démarque Arnaud par rapport aux autres grands chelems Wimbledon en n'arrivant pas à utiliser des toits dont ils se sont dotés pour se mettre justement
Ouais.
au niveau des autres grands chelems et finalement ils savent pas les utiliser. C'est une vraie différence par rapport à l'Open d'Australie, à l'US
Pas,
Open
enfin,
notamment.
je rejoins Maxime, hein, sur sa vision un petit peu des choses, mais je serais à la place de l'organisateur donc devoir décider, j'anticiperai et puis je prendrai pas de risque, évidemment. Évidemment, point, c'est tout. Ça, à la limite, on peut simplifier les choses au maximum
Voilà.
et arrêter de se prendre la tête, sachant qu'il y a déjà eu quelques couacs. Bon, au bout d'un moment, bah, tu réagis. Mais d'un autre côté, je me mets aussi à la place des joueuses et des joueurs. Je pense que à Wimbledon, peut-être encore plus qu'ailleurs, étant donné que c'est un tennis quand même très particulier, pour celles et ceux qui ne sont pas forcément très bons relanceurs, des très bons serveurs, les conditions de jeu outdoor. Enfin, peuvent vraiment leur être profitables, très profitables. C'est-à-dire que l'idée de se dire je vais essayer ben, d'enrayer un peu la machine adverse grâce à un peu de vent, grâce à une interruption par cette pluie, notamment grâce à tous ces éléments, ben, pourquoi pas? Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Oui,
Il y a
je vois très
aussi.
bien. Je vois très bien, mais
Voilà.
j'ai envie de dire que l'argument, il était bon quand il n'y avait pas de toit.
Non, non, mais t'as raison. Après, tu vois, tu sais très bien que le gazon peut être glissant,
Ah,
donc
bien
il peut se
sûr.
passer beaucoup de choses. Tu peux
Bien
tomber,
sûr.
t'énerver, te frustrer. C'est une surface quand même très particulière. Et voilà, donc en se mettant vraiment comme ça du côté des joueuses et des joueurs, bah, tu peux te dire, bah non, moi je préfère un peu attendre et pas mettre le toit, quitte à ce que les matchs soient décalés, quitte à ce que ça joue plus tard, quitte à ce qu'ils prennent du retard. Moi, c'est pas mon histoire. Donc
Ouais.
voilà, si je me mets à la place du joueur, hein. Mais d'un autre côté, là pour le coup, c'est très clair en se mettant du côté de l'organisateur, c'est quand même assez fou. C'est-à-dire que quand tu sais à quel point il flotte pendant le tournoi de Wimbledon, à quel point il galère à ce niveau-là, tu as des toits, tu les mets, puis basta, tu te poses zéro
Bah oui.
question, tu sais jouer et tu avances et tu t'enlèves quelques problèmes. Et notamment là, enfin, avec bon, tu les as tous évoqués et c'est très juste. Et c'est très juste. Et puis ce fameux couvre-feu, enfin, il y a un moment, enfin, je me dis, c'est quand même hallucinant. Hein, perso, je trouve ça complètement hallucinant de devoir stopper comme ça une partie à une heure précise, sachant que ce n'est pas très tard, sachant que on peut se dire que 15 jours dans l'année, on peut déborder. C'est pas. Ok, très
Oui.
bien le voisinage, mais 15 jours dans l'année, c'est quand même pas too much. Je sais pas, je trouve ça complètement dingue de vouloir absolument. Alors, je sais pas, c'est peut-être pas eux, hein, qui veulent le conserver, c'est peut-être la pression justement du voisinage, encore une fois, qui prend le dessus. Mais quand même, enfin, tu vois, ça, c'est un combat qu'il faut mener.
Ah ben, il y a
Et
des traditions de Wimbledon qui
peut
sont
être
terminées,
gagné.
celle-ci
Ouais.
à la dent
Mais
dure.
alors, oh, mais là, ce que tu dis, Anne, ça veut dire que le tournoi lui-même aussi est pour
Oui.
conserver en fait cet horaire
Peut-être
et ce
qu'ils
couvre-feu.
subissent plus qu'autre chose, hein. En fait, je sais pas. En fait, il y a une incohérence du côté de Wimbledon depuis plusieurs années qui est assez effarante. C'est-à-dire que pour moi, la tradition pour eux maintenant, c'est plus comment dire artificiel que réel. Ils sont passés dans l'ère moderne totalement. C'est-à-dire que leur gazon, ils l'ont changé. On savait depuis 2000, 2001. Hein, c'était enfin après l'édition 2001, ils l'ont changé. Ils l'ont rendu plus lent entre guillemets, c'est-à-dire le sol plus dur rebond un peu plus haut et voilà. On sait qu'ils ont volontairement aussi, c'était en 2019, ils l'avaient avoué, modifié les balles qui sont toujours de la même marque, hein, Slazenger, mais plus grosses, toujours pour ralentir le jeu. On sait qu'ils ont supprimé le dimanche chômé, qui était une grande tradition. Pourquoi? Pour fa
Sunday
faciliter,
closed.
voilà, pour faciliter le comment dire le, la tenue du programme, peut-être. Mais aussi parce que c'est mieux d'avoir du tennis tous les jours. Donc, en fait, ils ont supprimé toute une série de traditions. J'ai envie de dire qu'ils se renient. Et là, ils gardent celle-ci qui est peut-être la plus. Qui a le moins de sens, en fait, par rapport à leur tournoi. Donc, il y a une espèce d'incohérence qui est. En fait, c'est presque, j'ai envie de dire, c'est presque pour maintenir un vernis. On n'est pas comme les autres. Sauf que ça sert à rien de pas être comme les autres si ça ne donne aucun cachet particulier à l'événement. Là, c'est artificiel. Et puis sinon, il y a une autre solution, tout simplement, c'est d'avancer les matchs. Parce que
Oui,
je suis
dans ces
désolé.
cas-là, s'ils veulent garder, parce que moi, je suis plutôt d'accord avec le fait de ne pas
Voilà.
forcément avoir de night session à Wimbledon, ça ne fait pas partie de
Très bien.
la tradition du tournoi, mais effectivement, dans ce cas-là, on s'adapte, parce que si le jeu dure plus longtemps, il faut quand même pouvoir au maximum terminer les matchs la même journée, parce que là,
Non.
c'est vrai que c'est pas un match qui s'est terminé sur 2 jours, c'est deux, trois, quatre,
Tout a commencé
ça
avec
se
le Murray
multiplie.
Tsitsipas. Murray Tsitsipas de jeudi, un match, soit dit en passant, extraordinaire, très très beau
Ouais.
match de tennis. Pour moi, le match de la quinzaine depuis le début, très très beau match de tennis. Mais malheureusement, les spectateurs ont été frustrés parce que Murray gagne le troisième set, 2-7-1. Il est sur son élan en plus. Lui a dit que il n'était
Ça
pas
lui
contre
convenait comme
l'interruption.
ça, ouais.
Mais je pense qu'en fait, il le dit parce qu'il sait que ça sert à rien de jouer 20 minutes de plus. Il n'y avait que 20 minutes à jouer et ils n'auraient pas terminé en plus. Donc, il le dit pour ça. Mais pour les spectateurs, c'est terrible. 2-7-1, un match extraordinaire et on l'interrompt. Et le côté ubuesque de la chose, c'est que sur tous les cours, tous les autres cours extérieurs, la journée commence à 11 h heure locale, donc midi en France. Sur le Center Court, elle commence à 13 h 30. Il y a 2 h 30 de décalage entre les premiers matchs de la journée sur les courts annexes et le premier match sur le Center Court. Donc, qu'on ne me dise pas que c'est impossible d'avancer, ne serait-ce que d'une heure, je ne demande même pas 2 heures, mais d'une heure, le programme sur le Center Court. Là, c'est juste une question de logique. Et on a été très, très, on aime bien, en tant que Français, le faire, très critique à l'égard de l'organisation de Roland-Garros. On parle des night sessions, on a fait beaucoup de débats là-dessus. Mais là, pour le coup, si on fait la comparaison entre Wimbledon et Roland sur du point de vue organisationnel,
Il y a pire
il
que nous.
n'y a pas photo. Sur cette année, il n'y a vraiment pas photo. Là, Wimbledon, cette première semaine en tout cas, de ce point de vue-là, a été mauvaise, faut le dire.
Nous, on a su avoir du très beau temps et ça, c'est quand même fort.
Ouais, on a tout maîtrisé.
Bon, en tout cas, pour l'instant, ils ont rattrapé le retard sur les matchs et les quarts
Oui,
de
mais à
finale
quel prix?
vont pouvoir
Avec
se.
des joueurs qui jouent tous les jours. Avec des joueurs qui jouent tous les jours. Tsitsipas, il a enchaîné 5 jours de tennis. Il s'est fait éliminer par Eubanks, et à mon avis, c'est de sa faute principalement parce qu'il devait être au-dessus. Mais il a joué 5 jours de suite. Il y a un problème.
Ouais, après, j'ai pas le sentiment que les joueurs se soient trop élevés contre
Non.
ça. Ils n'ont pas eu de
Non.
déclaration
Il n'y a pas trop de plaintes,
critique
hein.
là-dessus. Ouais.
Mais c'est le prestige de Wimbledon, ça.
Ouais, et puis ils
Critique
acceptent
pas
un petit peu.
Wimbledon.
Ouais, mais ils acceptent aussi la situation. Ils savent qu'il y a de la pluie, ils savent que c'est plus compliqué. C'est comme si c'était
Bien
intégré, en
sûr.
fait. Et puis on fait
Ouais.
avec.
Ça fait partie
Avec
du jeu.
des matchs normalement. Alors normalement, je dis bien normalement, tout court, parce que c'est du gazon, mais finalement, on se rend compte qu'ils ne le sont pas forcément.
Non, non,
C'est
non.
peut-être une idée reçue maintenant, tout
Et
ça.
ça en dit long sur l'évolution dont on parlait, l'évolution du gazon et
Ouais.
des balles aussi.
On en a déjà parlé, c'est
Ouais.
fou. C'est fou, bien sûr.
Bon, en tout cas, ça a joué. Il y a eu des très beaux matchs, tu l'as dit, Maxime. Il y a eu du beau jeu, il y a eu des grandes rivalités aussi, des matchs dès le premier tour très intéressants. Donc, ça m'amène à cette question un petit peu plus personnelle. Qui vous a le plus impressionné depuis le début du tournoi, chez les hommes comme chez les femmes, bien sûr? Et pourquoi, en vue de cette fin de tournoi, vous pensez que ça peut ce joueur ou cette joueuse peut aller loin? On rappelle qu'on va jouer les quarts de finale aujourd'hui. Dis peut-être pour commencer, toi, il y a un joueur, une joueuse qui est sortie du lot sur cette première semaine?
Alors malheureusement, j'ai envie de te dire non. Non, mais quand je vois la densité des deux tableaux, hein, féminin, masculin, je trouve ça absolument génial, cette fin de
Ouais,
tournoi
c'est superbe, c'est
très,
vrai.
très alléchante, mais très, très alléchante. Quand tu vois les affiches que l'on a avec les jeunes et les moins jeunes, hein, évidemment, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je ne sais pas, on en avait parlé, hein. Enfin, on savait, honnêtement, on s'était dit qu'Alcaraz sur cette surface serait capable de très bien jouer. Bon, on n'est pas surpris de le voir encore à ce niveau de la compétition. Berrettini, c'était peut-être le gros match. Il fallait le
Oui.
sortir. Il perd le premier, il gagne en 4. Bravo. Il joue contre Rune. Stop. Ça va être génial comme affiche. Il est toujours là, qui a battu un Dimitrov qui est jamais facile à battre. Enfin, tout ça est très intéressant, mais finalement, ils sont en train de montrer qu'ils sont en train de prendre le dessus, tout simplement, quand même, ces deux jeunes, et de manière très,
Et à 20
très,
ans,
très claire. Ah
ils
ouais,
assument, c'est
bien
incroyable.
sûr. Après, et quand on prend, alors voilà, la surprise Eubanks, la surprise Safiulin peut-être, mais tu regardes, ouais, c'est surtout Eubanks qui bat quand même Nori et Tsitsipas. Ça, c'est quand même du lourd, c'est costaud, hein, de
Ouais, il
réussir
confirme après
à
Nori.
battre deux, peut-être deux séries, deux très très gros clients. OK, voilà. Et après, Sinner, on savait qu'il était capable. Moi, je crois, enfin, on en avait parlé, j'en avais un petit peu parlé, Sinner, sur cette surface. Il est capable de coups d'éclat, il est capable de faire très mal. Après, et les autres, Rublev, Djoko, bon, je ne sais pas si on doit en parler, mais Djoko, bon, on a quand même
Non.
beaucoup, beaucoup, j'imagine qu'il voit vainqueur, ok,
Oui,
beaucoup,
ça.
beaucoup, beaucoup, et on sait, mais on ne sait jamais. Et puis après, moi, je suis très intéressé, mais Maxime en avait déjà parlé, par le tableau féminin, c'est quand même très
Excellent.
intéressant. Moi,
On va
je
y
suis
venir, ouais.
convaincu que le challenge de Swiatek sur gazon, il est dans sa tête, dans sa tronche, depuis probablement quelques mois, peut-être même plus, des années, hein, j'en sais rien, mais il fallait peut-être aussi se faire les dents sur terre battue, sur dur et maintenant sur gazon. Mais c'est très intéressant. Elle s'en sort de justesse, enfin, difficilement en tout cas sur Bencic. Et puis derrière, tout est permis, mais les joueuses en face, celles qui restent, sont quand même des clientes. Ça va être très difficile. Une Jabeur qui connaît très bien aussi le tournoi est en grande forme. Sabalenka, qui enfin, tout, ça joue très bien. Moi, je trouve que si elle arrive, si Swiatek arrive à gagner là, Wimbledon, chapeau, ça voudra vraiment dire qu'elle rentre dans une autre dimension dans une catégorie, je pense, vraiment supérieure à celle à laquelle on l'a placée jusque-là. Parce que ça voudra dire qu'elle est capable de gagner sur toutes les surfaces et ça change beaucoup de choses. Et c'est la preuve aussi que, mentalement, je pense, parce que c'est aussi dans la tête que tu dois aussi réussir à te convaincre. Quand tu es capable, surtout quand tu es un peu catalogué, terrien ou joueur de certaines surfaces et non pas de gazon. Donc,
C'était
en
un
tout
peu le
cas,
même problème inversé pour Medvedev, hein. C'est un problème
complètement, bien sûr, bien sûr.
sur la terre battue.
Hyper intéressant. Mais
Ce
c'est,
sont.
voilà, les deux tableaux, en tout cas, sont quand même très alléchants, là, je trouve.
Le défi de Swiatek, toi aussi, Maxime, ça t'excite. C'est vrai que
Ouais, bien sûr.
on a l'impression qu'elle est un peu en mission sur ce tournoi de Wimbledon. Il y a eu un gros test face à Bencic où elle n'est pas passée loin de la sortie. Mais on sent qu'elle a envie d'aller chercher ce nouveau défi. Elle a presque tout gagné le reste et elle veut marquer l'histoire de son sport. Et ça lui donne un objectif, en tout cas.
Oui, c'est sûr. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est la façon dont elle a joué les balles de match contre elle, parce qu'elle a eu deux balles de match à jouer contre elle à 6-5 dans le deuxième set sur son service. Elle était menée 15-40. Et elle y allait, quoi. Elle est allée chercher les points. Elle n'a pas attendu la faute adverse. Et ça, c'est une preuve de caractère. Et elle montre pourquoi elle est numéro un quand elle fait ça. Maintenant, justement, en revenant sur ce match, ça prouve encore qu'elle a sur gazon des failles qu'elle n'a pas du tout évidemment sur terre battue et même sur dur. Sa préparation en coup droit étant assez longue sur gazon, ça l'handicape et des fois elle est un peu prise de vitesse même si son déplacement est très bon, même sur gazon, hein, elle se déplace très bien. Et je pense qu'il y a de l'espace pour les autres. Je pense qu'il y a de l'espace pour les autres alors que
Plus qu'à Roland.
à Roland, elle était quand même un ou deux tons au-dessus. Là, je pense qu'il y a de l'espace et même plus que de l'espace. Je vais même me risquer à dire que
C'est pas la favorite.
pour l'instant, celle qui m'impressionne le plus, c'est la tenante du titre.
C'est Rybakina.
C'est Rybakina. À part son premier set du tournoi, où elle était tendue parce qu'elle arrivait en tant que
Ah bah
tenante du
oui.
titre et elle a perdu son premier set du tournoi. Après, ça a été une démonstration. Une démonstration de force au service. Elle est d'une fluidité au service. C'est extraordinaire de voir Rybakina servir. Franchement, on a beaucoup catalogué le tennis féminin, hein, sur les faiblesses au service. On dit beaucoup que les grandes forces des filles, c'est plutôt le retour par rapport à un service qui peut être un peu plus faible. Rybakina, c'est presque le contraire, hein. C'est extraordinaire en première balle. C'est d'une fluidité et elle donne l'impression de faire avancer la balle sans effort. Et ça, c'est extraordinaire. Sur gazon, en fait, le gazon, pour moi, c'est la surface parfaite pour elle. Elle l'avait montré en surprenant tout le monde l'année dernière, parce que c'était une grosse surprise qu'elle gagne Wimbledon. Maintenant, ce n'est plus une surprise et elle assume. Et c'est ça qui me plaît, en fait. Arnaud parlait du tableau féminin. C'est-à-dire qu'on attend ces filles-là et elles sont là. Sabalenka, Rybakina, Swiatek, Jabeur, Pegula, toutes, elles sont là toutes. Il y avait une stat de je sais Temat qui disait que, alors je sais plus ça faisait combien d'années, mais très longtemps que les quatre premières têtes de série n'avaient pas été en seconde semaine de Wimbledon.
Bah
Et là,
justement, on a cette
t'as
stat
pas un peu mangé la
aujourd'hui.
feuille
Bah, on va la donner, la stat de notre partenaire Constance du compte Twitter Je sais tes maths. Elle avait fait la stat avant pour le début de la deuxième semaine. Elle est toujours valable pour les quarts de finale. C'est la première fois depuis Roland-Garros 2013, donc il y a 10 ans, que les quatre premières têtes de série du simple dames sont qualifiées pour les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem.
C'est
Donc
fou.
à Wimbledon, il faut même remonter à 2009 pour retrouver le top 4 en quart de finale. Donc à Wimbledon en 2009, c'était Dinara Safina, Serena Williams, Venus Williams et Elena Dementieva. Et à Roland-Garros 2013, Serena Williams qui avait remporté le tournoi, Maria Sharapova qui avait été finaliste, Victoria Azarenka et Agnieszka Radwanska. Et donc ce Wimbledon 2023, Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina et Jessica Pegula sont les quatre premières têtes de série qualifiées pour l'écart. On en avait parlé avant le tournoi de cette régularité chez les toutes meilleures qu'on retrouve toujours en quart, en demi de Grand Chelem quasiment, en tout cas pour les trois, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina et Iga Swiatek. C'est encore le cas à Wimbledon, elle confirme ces filles-là, que maintenant il y a une vraie régularité au plus haut niveau.
Oui, elle confirme, mais voilà, ça donne des rivalités qui sont très intéressantes et on a hâte de voir ces matchs-là. Rien que le quart de finale entre Rybakina et Jabeur, c'est le remake de la finale de l'an dernier, c'est super quoi. Hein. On a hâte de voir cette opposition de style entre une Jabeur qui est tout en finesse, qui a un slice de revers qui est absolument délicieux sur gazon, c'est un régal de la voir, et une Rybakina qui est aussi un régal à voir sur gazon, parce que c'est pas de entre guillemets, ce qu'on peut reprocher à Sabalenka, c'est-à-dire une
C'est pas
puissance
qu'un
brute,
service,
brute,
c'est
hein,
une
voilà.
puissance
Non,
brute, ouais.
ça va vite, ça va vite, c'est fluide, ça va au filet aussi, Rybakina. Donc, de ce point de vue-là, il y a beaucoup d'éléments qui sont excitants. Et pour revenir sur Rybakina, il y a une stat qui m'a surpris aussi. C'est la première tenante du titre à aller aussi loin depuis Serena Williams en 2016 à Wimbledon. Elle avait gagné en 2015 Wimbledon et elle avait confirmé, elle avait regagné en 2016 Serena Williams. Mais depuis, toutes les tenantes du titre à Wimbledon, il me semble qu'il n'y en
Avait
a pas une.
trébuché assez tôt, ouais.
Ouais, il n'y en a pas une qui ait fait deuxième semaine. Donc là, Rybakina, quand je dis qu'elle assume, c'est quand même mentalement, c'est très intéressant de ce point de vue-là.
Alors qu'on avait des doutes un peu, hein, parce qu'elle n'avait pas eu une préparation optimale,
Oui.
elle abandonne à Roland-Garros
Un virus qui
sur
l'a
un
perturbée.
virus qui l'a bien gelée quand même plusieurs semaines,
Elle manquait de
et
rythme.
elle est au rendez-vous.
Ouais, après, elle a pas non plus le souci des points à défendre. C'est plutôt pas mal. Je ne sais pas
Oui,
ce que
c'est
vous en
vrai.
pensez.
Et oui.
Mais non,
Non, c'est
mais
vrai, c'est sûr.
c'est pas du tout la. Enfin,
Non, non, c'est
alors,
vrai.
encore une fois, c'est peut-être complètement anecdotique, mais je ne suis pas certain. Quand tu arrives et que tu sais que tu es tenant du titre, où tu as quand même quelques points à défendre sur un grand chelem, en l'occurrence, quand tu l'as gagné, que tu sais que tu peux perdre tant de place si tu fais premier tour, enfin, c'est un peu souvent la pression que tu peux te mettre de dire, tiens, pardon. Je suis troisième, je vais passer 16e et on sait combien c'est long et dur de devoir remonter cette pente. Là, il n'y a pas du tout ça, ça n'existe pas. Donc, un premier tour, pour se remettre dedans probablement parce que c'est quand même quelque chose d'assez fort de revenir après une victoire. Mais derrière, elle se balade. Tu parlais de son jeu, de fluidité, c'est un timing extraordinaire, un
Extraordinaire.
timing de fou.
C'est
Des deux côtés,
fantastique.
il faut des
Fantastique.
sensations pour pouvoir jouer de cette manière, presque très à plat, mais c'est intelligent, ça joue sur sa ligne, mais ça fait pas n'importe quoi, c'est pas
Ça
touffu, c'est
utilise
très
les angles,
construit.
ça utilise les angles. Ouais,
C'est
c'est
très
très impressionnant.
structuré. Et évidemment qu'elle sert très bien. Et pour une très grande joueuse en taille, bah, elle bouge aussi très bien. Elle a une qualité d'œil aussi qui lui permet d'être à l'heure sur la balle. Donc, ce sont des qualités quand même. Elle a de nombreuses qualités qui lui permettent, ben voilà, de très très bien jouer sur cette surface. Après, ben rien n'est gagné d'avance. C'est très beau d'enchaîner comme ça, d'être en quart de finale. Mais il y a, tu parlais d'Ons Jabeur, mais tu parles d'une Pegula dont on ne parle pas. Elle a foutu trois fessées là, hein, sur ces trois derniers matchs. En fait, ce qui est marrant, ce qui va se passer là, c'est qu'on a quand même beaucoup de filles qui arrivent très en forme et qui ont un peu écrasé leurs adversaires sur les précédents tours. Donc c'est difficile même d'en sortir une plus qu'une autre parce qu'on se dit ok d'accord, mais Rybakina est super en forme, mais Pegula est super en forme, mais Sabalenka va très bien. Et tu vois, tu te dis bon mais laquelle? Swiatek qui elle est plutôt dans ce défi d'aller chercher le titre, là c'est un petit peu différent, mais pour les autres qui sont des joueuses qui s'adaptent un peu plus, enfin qui ont des jeux qui s'adaptent un peu plus à cette surface, elles sont très en forme. Et on se jabeur pareil, 6-0, 6-3 le tour précédent. Enfin, tout va très très bien. Donc c'est ça aussi ce qui rend cette fin de tournoi, enfin, je trouve, très excitante. Enfin, moi, de se dire, OK, il y en a plein qui sont en forme, il y a Swiatek qui va vouloir rivaliser et tirer son épingle du jeu. Génial, génial.
Et
Ouais,
pour.
Jabeur contre Kvitova, hein, qui est quand même pas
Ouais,
en manche sur
mais ça,
gazon,
je
qui est
voulais pas le
arrivée en
dire.
forme.
Je suis désolé, Anne, je voulais pas le
C'est
dire par respect pour notre ami
pour Bertrand
Berti.
Millard qui a perdu
Ouais.
ses deux favoris tchèques. Mourova, premier tour. Alors, ça, pour le coup, moi aussi. Là,
C'est de la
ça m'a
reprise,
surpris.
hein.
Ah, là, ça m'a surpris.
C'est
Ah, oui,
dur, c'est
c'était
dur.
dur. Ouais.
Donc, non, je voulais pas en parler. Laissons-le gérer ses bourdons et ses abeilles.
Il doit l'avoir, le bourdon, le pauvre.
Ouais, tout
Ouais,
à
non, mais.
fait.
Alors, pour revenir pour la petite plaisanterie sur Rybakina et le fait qu'elle n'a pas la pression de défendre ses points, certes, mais elle avait la pression d'avoir Roger Federer dans son dos pour ce premier tour, qui était invité
Dans la
mardi
Royal
de la
Box.
première, dans la Royal Box mardi de la première semaine, ce qui a fait un peu l'événement du début de tournoi, tellement on n'a pas vu de tennis à cause de la pluie. Donc,
Ouais, il a sauvé le tournoi, Roger.
Donc voilà, non, mais pour revenir plus sérieusement, c'est sûr que c'est très très dense et dense dans les joueuses qu'on attendait. Et ça, c'est super. C'est super.
Ça va donner une fin de tournoi très excitante. On a hâte de voir justement ce que ces rivalités dont on a souvent parlé vont donner. dans un tournoi du Grand Chelem, en plus ici à Wimbledon, ça va être sympa à suivre. On va terminer avec l'œil de Deep, hein, qui va réagir à l'actualité, Arnaud, concernant la Coupe Davis, l'équipe de France de Coupe Davis masculine, puisque ça concerne Sébastien Grosjean, le capitaine.
Oui, tout à fait. Bah, c'est parler, voilà, l'actu chaude en ce moment, c'est probablement inédit, probablement un capitaine qui n'est pas sélectionneur. Donc Sébastien Grosjean qui a vu donc le comité d'éthique saisi et qui a rendu donc son verdict très récemment pour dire que finalement il y avait, au regard de ses différentes activités, un conflit d'intérêts qui donc l'empêche désormais de pouvoir sélectionner les joueurs. Donc il reste capitaine, ça veut dire qu'il est là pour accompagner l'équipe, pour les conseiller, pour leur parler, pour rester sur la chaise, les motiver, tout ce que l'on sait, enfin, que doit faire un capitaine. En revanche, ce n'est pas lui qui va décider de qui viendra jouer donc sur les prochaines rencontres de Coupe Davis. Je vois Maxime faire la moue et je sens qu'il veut s'exprimer à cet égard. Mais en fait, en tout cas, par rapport à ça, moi, je trouve que le process mis en place par la Fédé au regard de ces différentes activités est assez cohérent. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un conflit d'intérêts, étant donné qu'il a des actions dans une agence de management sportif
Pénium,
dont Enium, dont font partie Richard Gasquet et Arthur Fils, une des étoiles montantes du tennis français. Par définition, ça, c'est
donc des
délicat.
joueurs
Ça.
sélectionnables.
Et donc, joueur sélectionnable, tout à fait. Donc, voilà, par rapport à ça, donc le process un petit peu révisé est assez juste et cohérent.
Oui, non,
Et
mais
pour compléter, ce sera confié a priori à trois hommes cette charge, le directeur du haut niveau Paul-Henri Mathieu, le directeur technique national Nicolas Escudé, avec un regard aussi du président de la Fédération française de tennis, Gilles Moreton,
exact. Oui,
qui seront
ça fait un
donc en
peu armée
charge de cette
mexicaine,
sélection.
hein. Ça fait un peu armée mexicaine là. C'est le seul truc que j'ai à redire là-dessus. C'est à la limite donc que Sébastien Grosjean ne puisse pas sélectionner parce qu'on estime qu'il y a un conflit d'intérêts, soit. Et c'est plutôt transparent de faire ça. En effet, comme le disait Arnaud, c'est très bien d'avoir ce processus-là de vérification pour pas qu'il y ait de polémique, pour pas qu'il y ait de choses. Après, donner la sélection à Paul-Henri Mathieu, très bien. Mais pourquoi? Demander au DTN de valider ensuite,
De valider,
puis au
ouais.
président de revalider ensuite, il y a quelque chose de d'un peu alambiqué. Voilà.
C'est le process. Alors juste, attends, c'est le process assez classique, hein, attention.
Ah
Hein.
oui?
Le
D'accord. Quand
capitaine.
Grosjean le fait ça, c'est la même chose, c'est le
Souvent,
DTN qui valide. Hein.
en fait, c'est le DTN qui ensuite fait valider la sélection par le COMEX.
D'accord, ok.
OK?
Bah
Donc en fait, si tu veux, dans le
c'est
process,
très bien, je savais pas ça, très bien.
ça rajoute pas grand-chose.
Ok.
En dehors de Paul-Henri Mathieu, qui finalement, lui, prendra une place un petit peu particulière dans le
Bien
processus.
sûr,
Voilà,
bien sûr.
c'est tout.
Non, mais pour faire un petit parallèle, ça me rappelle ce qu'on avait reproché à un certain moment à Didier Deschamps dans le foot. Pourquoi? Parce que il avait comme agent Jean-Pierre Vernès, et Vernès avait aussi parmi les joueurs de l'équipe de France certains joueurs. Et on disait, on avait reproché à Deschamps un conflit d'intérêts. Est-ce que vous sélectionnez finalement vos joueurs parce que ils ont le même agent que vous, voilà. Alors, à l'époque, rien n'avait été fait contre Deschamps. Et puis, je pense qu'on peut, vu les résultats de Deschamps par la suite, on peut estimer que sportivement, il savait ce qu'il faisait. Mais c'est vrai que le processus à la FFT de vérifier ça, d'être pour le coup, dans la transparence, est plutôt intéressant. Même
Oui, voilà,
si
ils se mettent à l'abri
je ne
de
soupçonne pas,
toute
même si je ne
soupçon. Ouais.
soupçonne pas Sébastien Grosjean de sélectionner Arthur Fils parce que
Bien sûr, bien sûr.
il est
Non, mais
représenté
bien
par
sûr, ça,
Ténium. Voilà.
tu as raison de le souligner. Mais après, la question de savoir si c'est quelqu'un de très honnête, de très droit, évidemment qu'il l'est. C'est quelqu'un, honnêtement, qui jamais est en connaissance de cause. En plus, il le sait qu'il y a ce petit sujet de conflit d'intérêts. Moi, et à la limite, ça lui simplifie peut-être les choses d'ailleurs. Et je l'ai vu un peu s'exprimer d'ailleurs à ce propos. Je
Oui.
pense évidemment qu'il y a de la déception parce que lui doit se dire co comment on peut douter de moi humainement sur les éventuels choix pour sélectionner en équipe de France. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est sacré. Enfin, et donc il est touché. Mais en même temps, on peut comprendre parce que enfin, ce conflit d'intérêts, il existe. Voilà, il est présent, il est là. Et donc intellectuellement, il l'entend, c'est certain. Mais je pense que humainement, c'est quelque chose d'assez dur pour
Oui,
lui.
et je pense d'après ses déclarations, comme il commente sur la chaîne qui diffuse Wimbledon, il a été interrogé à ce sujet et il a dit qu'il irait au bout de son année parce que il a commencé. Mais ça sous-entendait que peut-être qu'il n'y aurait pas de prolongation. On verra. Mais je pense que là, ça l'a un peu. Oui, ça lui a fait un peu de mal. Ça lui a fait un peu de mal. Donc,
Bien sûr.
il va continuer jusqu'à la fin de l'année, ça c'est évident, parce que justement, il est un peu. Il est légaliste. Il est dans le truc. J'ai commencé quelque chose. Je suis engagé dans une mission. Je la termine. Très bien. C'est tout à son honneur. Pour 2024, même s'il y a les Jeux, on va voir. On va voir ce qu'il
En tout cas,
décidera.
ce sera utilisé pour la première fois ce nouveau système lors de la phase de groupe de la Coupe Davis en septembre prochain. Ce sera du 12 au 17 à Manchester. Les Bleus retrouveront l'Australie, la Grande-Bretagne et le Chili pour cette phase de groupe de la Coupe Davis. Mais voilà, on voulait avoir vos réactions, messieurs, sur cette actualité, parce que c'est vrai que c'est pas banal d'avoir un sélectionneur qui perd ce poste-là pour rester seulement capitaine. Merci à tous les deux. Deep Impact, c'est terminé pour cette semaine. N'hésitez pas à noter, à nous laisser un commentaire. Abonnez-vous aussi. Vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer Wimbledon. Ce sera la dernière émission avant une petite pause estivale. D'ici là, suivez bien sûr l'actu sur eurosport.fr et sur nos antennes. Merci Arnaud, merci Maxime. Salut à tous.
Merci
Merci
à
Anne.
tous.
Salut,
Merci Anne.
salut.